Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai le privilège d'accueillir ici et de vous présenter Madame Victoria Sirlot, qui est professeure de littérature médiévale et comparée à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, en Espagne. Victoria Sirlot est l'un des vraiment grands experts de mystique du Moyen-Âge. Elle a commencé par un livre qui a marqué son époque, c'est-à-dire la fin du siècle passé, La Mirada Interior, Escritoras Místicas y Visionarias en la Edad Media, avec Blanca Gary, qui est là et que je remercie d'être là pour participer à ce séminaire. Et puis elle a continué avec deux livres, et c'est à ce titre qu'elle nous parle ce matin, sur Hildegard de Bingen, Vida y Visiones de Hildegard von Bingen et Hildegard von Bingen y la tradition visionaria de Occidente. Celui-ci publié en 2005. Donc vous voyez qu'il y a là tout un territoire concernant la mystique du Moyen-Âge. Du reste, elle vient de terminer toute une anthologie des mystiques allemands du Moyen-Âge au XXe siècle pour l'entreprise dont nous avons parlé l'année passée, Francesco Zambon, et les quatre volumes des Meridiani Mondadori. D'autre part, il y a toute cette partie concernant la mystique du Moyen-Âge s'accompagne à une lecture très profonde de l'épique française et allemande au Moyen-Âge, et je ne citerai ici que le Parle Swaus ou El Alto Libro del Graal, Madrid 2000, Figuras del Destino, Mitos y Símbolos de l'Europa médiévale, encore une fois, vous voyez donc tout l'ensemble de ces études, et j'ajouterai que cette attention à la mystique classique est unie à une conscience critique de l'époque contemporaine qui est très aiguë et qui fait sortir la réflexion de Victoria Sirlot de la pure érudition pour interroger constamment le temps présent. Je citerai par exemple cette belle interprétation de la lecture de Meister Eckhart par rapport à la structuration des formes dans le temps présent. El Maestro Eckhart y la Arquitectura de Bruno Taut, dans le volume qu'elle-même a préparé avec Amador Vega, Mystica y Creación en el siglo XX, Tradition et Innovation en la Cultura Europea. Mais d'autre part, il y a un problème de langage. C'est la partie qui me fascine le plus dans le travail de Victoria Sirlot. Nous ne sommes plus les héritiers du vocabulaire qui avait été établi magnifiquement, du reste, par Sandeus, Proteologia Mystica Clavis, ou par Giovanni Bona au XVIIe siècle. Ce vocabulaire s'est perdu. Et donc, il faut maintenant, d'une manière extrêmement subtile et consciente, déchiffrer le langage du XXe siècle qui pourrait se prêter ou qui peut avoir abrité le discours mystique. C'est l'un des grands problèmes. Il y a eu très récemment un colloque à Toulouse exactement sur ce problème et nous attendons les actes. On ne peut plus classer les mystiques de la même manière parce que nous avons des problèmes de langage et c'est ce langage qu'il faut interpréter. Eh bien, Victoria Sirlot a travaillé sur ce langage et je citerai du reste, c'est en français, d'abord « Langue des pierres, expérience mystique et nature » dans un volume collectif « Les enjeux philosophiques de la mystique » paru à Grenoble en 2007 et encore « La nuage de poussière, les armées, la tache sur le mur » pour une critique de l'imagination. Et ici, c'est un volume récent qui vient de l'une des activités du Collège de philosophie, c'était dans le volume « Philosophie esthétique dans le Don Quichotte de Cervantes ». J'ajouterai qu'à côté et à l'intérieur même de ce travail de critique et d'interprétation du Moyen-Âge et du temps présent, Victoria Cirlot a eu le grand mérite de promouvoir et enfin d'accueillir à son université dans un lieu fabuleux, c'est-à-dire dans les étages qui sont au-dessous du grand réservoir d'eau de la ville de Barcelone, réservoir d'eau qui est déjà un monument à lui parce qu'il a été construit par l'un des élèves de Gaudi, si mes souvenirs sont
bons. Le maître de Gaudi.
Ah, le maître de Gaudi, encore mieux. Voilà. Oui, oui. Et elle abrite là, dans ces lieux qui rappellent les psaumes et la Genèse, hein, séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la bibliothèque de Alois Haas, qui est là présent et que je remercie beaucoup de s'associer à notre réflexion, professeur honoraire à l'Université de Zurich, qui a consacré toute sa vie à créer une immense bibliothèque du savoir mystique et qui est maintenant donc, la Pompée au Fabre dans ce réservoir de sagesse, je dirais, de l'Occident, où il n'y a pas de barrière de langue, pas de barrière de nation, pas de barrière de vocabulaire. Et tout ça circule d'une manière magnifique. Donc, je vous invite à visiter. J'ai eu le privilège d'y être. Je voudrais bien sûr retourner le plus possible. Mais c'est vraiment un haut lieu, je dirais, de la recherche universitaire, scientifique, mais aussi humaine, que nous pouvons aujourd'hui compter dans cette Europe qui est pleine de désarroi, de mélancolie, d'absence de projet. Eh bien là, on peut vraiment remonter à nos sources. Vous voyez donc que nous sommes au cœur même de notre réflexion. J'ai proposé donc comme titre de ce séminaire les paradis intellectuels, mystiques, les paradis artificiels. Dans le cours précédent, j'ai fait tout simplement un travail de vocabulaire pour distinguer les deux traditions qui arrivent dans la tradition du paradis, du lieu locus amenus, du jardin de plaisir, comme la Genèse le dit, de l'hortus delicarum, et puis d'autre part du royaume des cieux, regnum celorum, avec tout ce qui se tisse à l'intérieur de cette tradition quand on arrive au paradis de Dante. Mais Dante, à son tour, est l'héritier. C'est quelqu'un qui profite d'une large tradition d'au moins 3 siècles déjà dans la culture latine du Moyen-Âge. Et c'est à ce titre que Hildegard von Bingen nous apparaît comme l'un des grands fondateurs de l'imaginaire mystique et de la compréhension même des royaumes des cieux que la littérature européenne nous a légué. C'est un auteur qui n'a jamais cessé de fasciner l'Occident. On pourrait du reste citer les auteurs du XXe siècle qui dépendent de la vision d'Hildegard de Bingen, mais je suis sûr que Victoria va nous renseigner sur ce point, donc je suis honoré et bien sûr reconnaissant de lui donner la parole. Et je vais m'installer en bas moi aussi parce que je vais profiter de la vision. Voilà.
Merci bien Carlo, merci bien de cette invitation. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici à Paris, un grand honneur de parler ici au Collège de France et d'y être accompagné par des amis comme Blanca et Alois Maria Haas. Merci bien, Carlo, de cette invitation. Les visions constituent une étrange expérience dans la vie de Hildegard von Bingen. Elles commencèrent dès sa plus tendre enfance, à l'âge de 3 ans, et ne l'abandonnèrent jamais. Elles lui donnèrent les charismes qui réclament toute position privilégiée dans son monde et marquèrent son penchant pour l'écriture. L'œuvre prophétique qu'elle commença à écrire à l'âge de 42 ans et 7 mois, en 1541, s'appuie en effet sur les visions qu'elle décrit dans un premier temps et interprète ensuite à partir d'une exégèse allégorique. Mais son œuvre prophétique n'est pas le seul aboutissement de l'expérience visionnaire. En effet, celle-ci a également influencé ses compositions musicales et poétiques, Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum et Ordo Virtutum. Ces expériences linguistiques, lingua ignota et litterae ignotae, et bon nombre de lettres qui forment une correspondance considérable adressée à des laïcs autant qu'à des religieux, à des inconnus autant qu'à des personnages illustres des antans. Seule son œuvre médicale, Causae et Curae, et celle qui verse sur la nature, Physica, semble se placer dans la marche de la vision pour donner lieu à un sens aiguisé et pénétrant de la perception, ce qui constitue un contrepoint intéressant dans la personnalité complexe de la visionnaire. Les visions de Hildegard déploient une cosmologie empreinte d'une puissance symbolique tout à fait palpable. Les miniaturistes qui transposèrent ces visions sur les parchemins suivirent fidèlement cette inscription, produisant des images nouvelles par rapport à l'art traditionnel de l'époque. Dans l'œuvre de Hildegard, dans les Chivias 1141-1151, ou dans le Liber Divinorum Operum 1163-1173, les images symboles se succèdent comme dans une gigantesque fresque. Les visions paradisiaques, représentation de l'au-delà, occupent une place remarquable dans ces deux livres. Il s'agit, dans l'un comme dans l'autre, de la vision d'une ville que nous pouvons assimiler à la Jérusalem céleste. Je vous propose de cerner la ville céleste de Hildegard von Bingen, thème de cette conférence, en quatre étapes. Premièrement, je commencerai par tenter une approche du phénomène visionnaire pour donner un cadre au fait que consiste à voir la ville. Deuxièmement, je décrirai les visions de la ville céleste à partir du Chivias, pour l'essentiel, et en puissant aussi dans son œuvre prophétique, poétique ou épistolaire, les passages susceptibles de faciliter leur compréhension. Troisièmement, je proposerai de réfléchir à la valeur des images de la ville céleste selon les contextes. Et finalement, dans une quatrième étape, je comparerai ces visions à celles de la ville céleste au XXe siècle pour inscrire l'exemple de Hildegard dans une perspective historique. Dans les manuscrits sur lesquels furent copiés les Chivias et le Liber Divinorum Operum de Hildegard, les miniaturistes la représentèrent en train de recevoir la révélation divine. Dans les premiers, actuellement disparus, et dont il nous reste que quelques photos et les facsimilés réalisés au monastère de Eibingen à la fin des années 20, et vous avez ici le facsimilé et en photo de l'original perdu. À partir de ce moment-là, nous verrons toujours des images qui viennent pas de l'original, mais du facsimilé, qui sont des images qu'on travaille normalement. Ce sont les images sur lesquelles on travaille, celles du facsimilé d'Eibingen. Hildegard est représentée au premier folio, habillée en religieuse bénédictine, avec les tablettes de cire et les poinçons, s'apprêtant à écrire tout ce qu'elle verra et entendra, exactement comme le lui ordonnera la voix céleste. Placée à l'intérieur d'un édifice, dans un espace qui évoque une cellule monastique, elle est observée attentivement par un moine qui transgresse les cadres architecturaux et s'introduit dans l'espace visionnaire. Ce personnage a été identifié. C'est Folmar, le premier secrétaire de Hildegard, qui l'aida pour la grammaire et la syntaxe latine. L'événement extraordinaire est représenté par des sortes de langues de feu pénétrant dans son cerveau, elle illustre la déclaration de Hildegard. Je cite. Et il arriva en l'année 1141 de l'incarnation de Jésus-Christ, fils de Dieu, alors que j'étais âgé de 42 ans et 7 mois, qu'une lumière de feu d'un éclat extraordinaire venant du ciel ouvert traversa tout mon cerveau et enflamma tout mon cœur et toute ma poitrine, comme l'est fait la flamme, non pas celle qui brûle, mais celle qui réchauffe, tout comme le soleil réchauffe un objet sur lequel il pose ses rayons. Et voici que tout à coup, je pouvais savourer la connaissance du contenu des livres, c'est-à-dire du Psautier, de l'Évangile et de tous les autres livres catholiques, aussi bien de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et cela sans connaître la traduction des mots et leurs textes, de leurs textes, ni la division en syllabes, sans avoir non plus la connaissance des cas ou des temps. Fin de la citation. Ces manuscrits, le Risen Codex, réalisé de son vivant et très probablement sous sa direction dans un grand scriptorium de l'époque, Trier, Andernach ou Marialach, par exemple, nous offre un premier portrait de la visionnaire sous une forme qui rappelle l'idée dont l'on s'effaçait à l'époque de la Pentecôte. En effet, l'iconographie de la Pentecôte, selon laquelle les apôtres sont représentés assis, recevant les langues de feu de le Saint-Esprit, fournit à l'artiste du monastère de Wiesbaden la manière de transposer les paroles de Hildegard. La visionnaire, comme les apôtres, sera alors en mesure d'aller prêcher la parole reçue de l'Esprit aux confins de la terre. Pour elle, il s'agira essentiellement d'écrire, dans une étroite relation, comme l'exprime la miniature, entre l'inspiration de l'esprit, illumination ou vision et écriture. C'est d'ailleurs aussi que nous la retrouvons dans les manuscrits actuellement conservés à la Bibliothèque Statale di Lucca, lui aussi d'origine allemande et daté de la première moitié du XIIIe siècle, dans lequel fut copiée la dernière de ses œuvres prophétiques, commencé en 1163, le Liber Divinorum Operum, qui vient après le Liber Vitae Meritorum, 1158-1163, qui ne fut jamais enluminé. Les manuscrits de Lucca furent réalisés dans le dessein de promouvoir la sanctification de la visionnaire, ce qui n'a eu jamais lieu, d'où l'emphase avec laquelle l'expérience visionnaire de Hildegard est soulignée. En effet, celle-ci apparaît non seulement dans les premières folios du Liber, mais aussi dans tous les folios, nous l'avons ici toujours en bas, dans tous les folios du Lucca, du manuscrit du Lucca. Cette insistance répond à la nécessité d'établir sans équivoque que toute l'œuvre n'est autre que le résultat de la révélation divine, en mettant en avant le sujet que Dieu choisit pour s'exprimer à travers lui. La voix de Hildegard n'est audible dans le Scivias comme dans le Liber Divinorum Operum que pour se référer à son expérience, ego vidi et audivi. Mais la voix qui s'exprime en interprétant les visions est celle de Dieu, de sorte que la responsabilité de Hildegard n'est pas engagée quant au contenu de l'œuvre. C'est là que réside la différence fondamentale entre Hildegard et les mystiques du XIIIe siècle, car tandis que celle-ci écrivait à la première personne, Hildegard n'est qu'un élément de transmission, un instrument divin, dira-t-elle d'elle-même. Dans les premières folios du manuscrit de Lucca, on distingue une fenêtre qui communique avec la terre, qui communique avec la terre des visions, que nous pourrions appeler, ici vous avez aussi, c'est la même fenêtre dans ces manuscrits, dans cette miniature, on distingue cette fenêtre que nous pourrions appeler, qui communique, la fenêtre communique avec les mondes des visions, que nous pourrions appeler avec Henri Corbin les mundus imaginalis, ce qu'on déploie ici. Ah non. Hildegard est en train d'écrire dans la cellule de son monastère, accompagnée une fois de plus de son secrétaire, Folmar, et d'une religieuse. S'il est un élément réellement caractéristique et spécifique à Hildegard, qui domine dans les deux enluminures, celle du Chivias et celle du Liber, ce sont ses yeux démesurément ouverts. Ce qui n'est autre qu'une preuve de plus de la fidélité avec laquelle les miniaturistes transposèrent ces textes en images. Dans plusieurs passages de son œuvre prophétique, dans les prologues ou les épilogues, dans quelques-unes de ses lettres, certains passages autobiographiques introduits par Theodoric von Echternach, dans la biographie qu'il lui consacra quelques années après sa mort en 1179, Hildegard répète maintes fois ne jamais avoir des visions en état d'extase, mais toujours éveillée, et non pas dans des lieux cachés, mais dans des lieux découverts. J'ai choisi un de ces passages parmi d'autres, à titre d'exemple, celui de la Protestificatio de Chivias. Elle dit « En tout cas, les visions que j'ai vues, ce n'est pas dans des songes, ni en dormant, ni dans les délites, ni par les yeux du corps, ni par les oreilles de l'homme extérieur, ni dans des lieux cachés que je les ai perçus, mais c'est en étant éveillé, avec toute mon attention, avec les yeux et les oreilles de l'homme intérieur, en des lieux découverts, que, selon la volonté de Dieu, je les ai reçus. » Pour revenir aux images, elles contrastent avec la manière dont fut représentée Elisabeth von Schönau, contemporaine de Hildegard, avec qui elle correspondait, qui est ici prosternée à terre, au pied de la montagne. Elisabeth a une vision en état de raptus, d'excessus mentis, in extasim, selon les différentes expressions qu'elle employera pour décrire son état. Les images de Hildegard visionnaire contrastent avec celles de Jean de Patmos, qui, depuis les Beatus jusqu'au cycle apocalyptique anglais du XIIIe siècle, est représenté sur l'île de Patmos, recevant dans son sommeil la vision de l'ange. Dans la miniature des Beatus, on voit clairement l'esprit des gens visiter les régions célestes. Une relation, voire une identification, pourrait-on dire, s'établissant entre vision et songe. C'est la colombe, c'est l'esprit de Jean, et c'est la colombe qui visite les régions célestiales. Les yeux fermés de Jean semblent s'opposer aux yeux ouverts de Hildegard, à tel point que Jean-Claude Schmitt interpréta les images de Hildegard visionnaire comme les modèles opposés au songe, Gegenbild zum Traum. Probablement en raison de la méfiance qui pouvait susciter les images oniriques, surtout si elles provenaient d'une femme. Dans une étude sur les songes dans les textes mystiques allemands du XIVe siècle, Alois Maria Haas rappelait l'attitude critique que le Moyen-Âge avait toujours eue à l'égard du songe, classée selon diverses typologies. Celle de Macrobe, issue de celle d'Artemidore de Daldis, celle de Posidonios, en passant par Cicéron et Tertullien jusqu'au Moyen-Âge, ou celle de Grégoire le Grand. En réalité, ces positions critiques n'étaient guère éloignées de celles qui étaient réservées aux visions, notamment à cause de la difficulté de déterminer les origines, démoniaques ou divines. Dans tous les cas, Jean de Patmos fut pour Hildegard la référence précise et sans équivoque à laquelle elle put se confronter pour mieux se comprendre elle-même. Dans un passage de la Vita, Hildegard raconte à la première personne la vision qu'elle encouragea à écrire le Liber Divinorum Operum. Il s'agit d'un passage difficile qui donna lieu à diverses interprétations parce que Hildegard semble se contredire par rapport à ses affirmations précédentes lorsqu'elle disait n'avoir jamais connu l'extase. Mais devant cette considération, il semble plus plausible de penser que la visionnaire fait allusion à une visio intellectualis, selon la classification augustinienne, bien qu'avec des images, mais une vision dans laquelle elle se serait absolument vidée d'elle-même. Ce qui nous intéresse le plus de ces passages, c'est l'allusion à Jean de Patmos. Je cite les passages. Quelque temps après, j'ai vu une vision si merveilleuse et mystérieuse qu'elle secoua tous mes entrailles et éteignit la sensualité de mon corps. Ma connaissance changea de telle manière que je me reconnus à peine. Des 12 gouttes de pluie, empreintes d'inspiration divine, tombèrent dans la conscience de mon âme, comme lorsque Saint Jean l'Évangéliste s'imprégna de l'Esprit Saint en s'abreuvant au sein du Christ de la très profonde révélation, de manière que sa conscience fut touchée par la sainte divinité et que les mystères occultes ainsi que les œuvres lui furent révélées en disant « Au commencement était le Verbe », etc. De toute évidence, ces gens auxquels Hildegard fait allusion est l'auteur du quatrième évangile, mais aussi l'auteur de l'Apocalypse, selon l'identification habituelle qui était faite des deux auteurs au Moyen-Âge. Et c'est celui de l'Apocalypse qui nous intéresse, tout spécialement à présent, car il est le genre visionnaire. Et en particulier, c'est lui qui vit descendre la Jérusalem céleste du haut d'une montagne. À mon avis, la vision de la ville céleste que je vais décrire peut se comprendre comme une actualisation du fait apocalyptique, tel que la théologie chrétienne permet de les comprendre, en affirmant que la révélation n'est pas unique dans l'histoire et qu'elle est susceptible de se manifester indéfiniment. Dans les grands courants de la mystique juive, Gershom Scholem l'explique ainsi. Il dit « La révélation, par exemple, pour les mystiques, n'est pas seulement un événement historique déterminé, qui, à un moment donné dans l'histoire, a mis fin à une autre relation directe entre l'humanité et Dieu. Sans avoir l'intention de nier la révélation comme fait historique, le mystique attribue néanmoins une importance égale pour la vérité religieuse à la source des connaissances et de l'expérience religieuse qui jaillit de son propre cœur. En d'autres termes, au lieu d'un seul acte de la révélation, il y a une répétition constante de cet acte. Cette nouvelle révélation, faite à lui-même ou à son maître spirituel, le mystique essaie de la faire cadrer avec les textes sacrés du passé. Dès là, les nouvelles interprétations données aux textes canoniques et aux livres sacrés des grandes religions. » Fin de la citation de Scholem. Passons maintenant à la deuxième étape et examinons la vision de la ville céleste. La vision de la ville céleste se trouve dans la troisième partie du Chivias. La description commence par un plan général de la ville qui correspond à la deuxième vision, puis, dans les visions successives, elle s'arrête sur chacun des éléments qui forment la ville, les tours, les murs et les colonnes. Commençons par la description générale de la ville, accompagnée de cette miniature du manuscrit de Wiesbaden. Je cite. « Ensuite, je vis, à l'intérieur de la circonférence du cercle qui émanait de celui qui siégeait sur le trône, une sorte de grande montagne unie à la racine de cette immense pierre sur laquelle, en même temps que sa nuée, avait été placé le trône de celui qui siégeait, si bien que cette même pierre semblait se dresser en hauteur et cette même montagne s'étendre en largeur. Et sur cette montagne s'est dressé une sorte d'édifice quadrangulaire, Edificium quadrangulum, fait à la ressemblance d'une ville quadrangulaire et placé légèrement en oblique. Et l'un de ses angles était dirigé vers l'Orient, un autre vers l'Occident, un vers le septentrion et un autre vers le Midi. Ce même édifice avait sur son pourtour un mur formé de deux éléments. L'une était une sorte de lumière éclatante, semblable à la lumière du jour, et l'autre une sorte d'entassement de pierre, se réunissant dans l'angle oriental et dans l'angle septentrional, de sorte que la partie lumineuse du mur s'étendait de l'angle oriental à l'angle septentrional, d'un seul tenant et sans aucune interruption. Et l'autre partie, faite de pierre, partait de l'angle septentrional vers l'angle occidental et l'angle méridional. La longueur de cet édifice était de 100 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 100 coudées. Et les deux murs de chacun de ses côtés étaient de la même longueur, tandis que celui de la face et celui du fond étaient de la même largeur. Et ces quatre murs, tout autour de l'édifice, étaient de la même hauteur, à l'exception des tours de défense qui parfois s'élevaient les plus haut que la fête du mur. La distance entre l'édifice lui-même et les rayonnements du cercle sudit qui s'attendait jusqu'à la profondeur de l'abîme était à la plombe de l'angle oriental d'une palme. Ailleurs, c'est-à-dire dans les parties septentrionales, occidentales et méridionales, la distance entre l'édifice et ses rayonnements était telle que je ne pouvais en aucune façon l'évaluer. Dans cette miniature, comme dans d'autres de ces mêmes manuscrits et du manuscrit de Lucca, on peut observer par quels moyens diagrammatiques les visions de Hildegard ont été résolues. Les figures géométriques, dans ce cas les cercles et les carrés antérieurs, qui représentent la ville proprement dite, en plus du carré extérieur qui encadre toute la composition, sont dessinés avec une grande netteté. Comme dans toute vision, Hildegard voit des formes qui ne sont pas entièrement assimilables à des formes terrestres, mais qui leur ressemblent simplement, ad similitudinem. Elle voit une urbs quadrata se présentant dans une position oblique, de sorte qu'elle prend la forme d'un losange. La description passe par la détermination des points cardinaux qui suivent l'orientation de la géographie visionnaire selon laquelle le Nord est l'Orient. Les mesures nous sont données, ainsi que les matériaux qui entrent dans la composition du mur, la lumière resplendissant et les pierres. La lumière irradie toutes les visions de Hildegard, qui, dans la lettre bien connue pour sa valeur de manifeste visionnaire qu'elle écrivit à Guibert de Jambleau en 1175, lui avouait la coexistence de deux lumières dans son intérieur, une qui l'accompagnait toujours et l'autre qui était extrêmement forte et qu'elle ne voyait que de temps en temps. Lumière vivante, l'appelait-elle. Flamboyement, éclat, lueur, étincelle, effet que les miniaturistes cherchent à recréer avec l'or et la pourpre et avec des autres textures liquides, spéculaires, sombres, qui nous situe entièrement dans le monde visionnaire. Les murs de lumière et l'élément céleste de la ville, dont le sommet supérieur, dans l'angle oriental, est présidé par un Christ en majesté. Comparons cette image de la ville à l'une des premières cartes que nous avons de Jérusalem. Je me rapporte maintenant non pas à la ville céleste, mais à la ville terrestre. Cette carte, dite de Cambrai, est datée entre 1140 et 1150. Autrement dit, elle date de l'époque où Hildegard écrivait le Chivias. D'après Heidenreich, la carte se caractérise par un réalisme intense, au point que la forme en losange qu'elle adopte, contrairement à la forme circulaire habituelle, semble reproduire la situation de la ville réelle de Jérusalem. On y trouve aussi des indications précises, dont une par exemple qui signale les flanques par lesquelles la ville fut prise par les croisés français. On voit ici l'inscription de Hic Capta est Civitas a Francis, et qui coïncide exactement avec ce que les sources historiques nous disent de l'assaut de 15 juillet 1099, ou une autre indication signalant la tour de Tancrède en se référant au prince Tancrède d'Hauteville, cité dans De situ urbis Jérusalem. C'est ici la tour de Tancrède, avec l'inscription entre 1130 et 50. Le fait que soient cités des monuments qui n'existent nulle part ailleurs, ni sur des cartes, ni dans des documents textuels, comme par exemple les églises, cette église de Saint-Bartholomé, de Saint-Abraha ou Saint-Salvator, ces trois églises qui sont par ici, et selon Heidenreich, semble indiquer que la carte a été dessinée par quelqu'un qui connaissait bien la ville, probablement un croisé du cercle des comtes d'Alsace, plus précisément de Thierry d'Alsace, qui s'est rendu par trois fois en Terre Sainte, 1138, 47 et 63. Les codex ont un rapport d'une certaine manière avec cette famille, car il contient des lettres de Frédéric Barberousse à Thierry et à Philippe d'Alsace. En comparant la miniature de la ville vue par Hildegard et cette folio 1 de la carte de Cambrai, qui sont pratiquement contemporains, on trouve assez de ressemblances entre les deux images pour élever la correspondance entre les deux représentations de Jérusalem dans l'imaginaire de l'époque, mais on repère aussi ce qui les distingue clairement. La ville de Hildegard est présidée par le Christ en majesté, présence qui transfigure et convertit la ville en ville de Dieu, alors que sur la carte, son absence est flagrante. Dans cette troisième partie de Chivias, après la description du plan général de la ville, vient l'exégèse des significations. La montagne représente la foi, et s'il est placé au pied de la dite pierre immense qui détient les mystères de la crainte de Dieu, c'est dû au fait que la foi s'est unie à la solidité de la crainte de Dieu et la crainte de Dieu à la force de la foi. Puis, il est dit que ce qui suit de l'édifice quadrangulaire, semblable à la ville quadrangulaire, je cite, « c'est la bonté du Père édifiant des bonnes œuvres sur la foi qui rassemble un grand nombre de fidèles à quatre angles de la terre et les entraîne vers les choses célestes, c'est-à-dire dans sa puissance intérieure et sa sagesse mystique grâce aux quatre pierres de taille de la foi. » Plus loin, la voix céleste se proclame. Moi, les Très-Hauts, j'ai mis en place par mon action la première pierre de taille des hommes, c'est-à-dire Adam, dont la race, une fois que celui-ci se fut séparé de moi par un grand schisme, s'avança affaiblie jusqu'à la seconde pierre, c'est-à-dire Noé, quand s'est produit les déluges au cours duquel j'ai préfiguré dans l'arche les mystères de mon fils. La troisième pierre représente Abraham et Moïse, unis par la circoncision et dans la loi, et la quatrième, la Sainte Trinité. Le fait que l'édifice se trouve dans une position légèrement oblique est dû à ce que l'homme, qui est l'œuvre de Dieu, ne peut, à cause de sa fragilité, s'avancer avec fermeté, sans péché ni avec audace, en dominant le diable, sans redouter la fragilité de la chair. Il lui faut, dans l'humilité, éviter celui-ci, fuir ses pièges avec sagesse pour ne pas pécher, s'attacher fidèlement aux bonnes œuvres et s'éteindre ainsi dans les fils de Dieu qui, placé dans l'angle, est comme une pierre angulaire, construisant ainsi en l'homme l'œuvre du salut. Ainsi, chacun des aspects de l'édifice possède une signification intérieure, crainte de Dieu, foi, bonté, etc. En outre, l'édifice tient lieu de mise en espace de l'histoire sacrée, le temps d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse. Les différents matériaux dont le mur est constitué sont expliqués par rapport à la science spéculative, soit au discernement entre le bien et le mal, en fonction de leur apparition et leur évolution au fil du temps. Hildegard dit, cette partie lumineuse du mur s'étend depuis l'angle oriental et s'achève dans l'angle septentrional, dans un seul tenant et sans interruption. C'est que la science spéculative, destinée à fortifier les esprits des hommes, a commencé à apparaître depuis l'angle oriental, c'est-à-dire au jour de Noé, alors qu'auparavant, avant Noé, l'injustice appliquée a mené à terme tout ce qu'il pouvait perpétrer pour se moquer de Dieu. Les correspondances entre les aspects physiques et les vérités intérieures sont établies avec précision. De même que les associations entre des plans de réalité différents, les tout concourant à révéler une conception symbolique du monde. Elles sont parfois trop prolixes pour les mentalités d'aujourd'hui, incompréhensibles, et on a l'impression, je dirais d'ailleurs, que cette impression est induite par la lecture de Lévi-Strauss, que la seule chose qui importe, c'est la structure, l'ordre. Je vous présenterai l'édifice quadrangulaire de la manière la plus synthétique qui soit, mais il me semble nécessaire de le faire pour comprendre la vision de Hildegard. Ainsi, après la description de la forme générale de l'édifice, ou ville quadrangulaire, on passe à la vision particulière de chacun des éléments de la composition. Le premier, c'est la tour couleur fer, dans laquelle on distingue 5 figures, chacune regardant dans une direction, de sorte que l'on retrouve les soucis d'orienter l'élément architectural avec précision. Je cite, la première regardait vers l'Orient, la deuxième vers l'Aquilon, la troisième vers les septentrions et la quatrième vers la colonne du Verbe de Dieu, au pied de laquelle se trouvait le patriarche Abraham, et la cinquième vers les tours de l'église et vers les hommes qui couraient de toutes parts, ça et là, dans l'édifice. La première image correspond à l'amour céleste, la deuxième à la discipline, la troisième à la pudeur, la quatrième à la miséricorde et la cinquième annonce la victoire. La colonne de la parole de Dieu prend place dans la quatrième vision, à l'extérieur de la partie lumineuse du mur. Pour la visionnaire, la colonne semble terrible et ses dimensions gigantesques l'empêchent de la mesurer. De l'angle oriental sortent branches de la racine au sommet. Abraham assis sur la première branche, Moïse sur la deuxième, Josué sur la troisième, suivi de tous les patriarches et prophètes, tout tourné vers l'angle septentrional en admiration devant les choses futures. Au sommet de la colonne, au milieu d'une grande clarté, on remarque une colombe tenant un royaume doré dans son bec. À l'intérieur de l'édifice, il y a une image d'où émane une grande clarté et qui représente la sens de Dieu dans l'exégèse. La cinquième vision correspond à la colère de Dieu. Le texte dit, une sorte de tête d'une forme admirable placée immobile à partir du cou sur l'extérieur de ces mêmes angles. Elle s'élevait au-dessus de la terre de la même hauteur que cet angle, ne les dépassant pas, mais se trouvant simplement exactement à la même hauteur de son sommet. Et cette tête était couleur de feu, rougeante comme la flamme du feu. Elle avait un visage d'être humain redoutable et regardait plein de colère vers l'Aquilon. Les chapitres 21 de cette vision renferment une histoire biblique de la construction des temples. C'est l'histoire de Jacob. C'est très bref. Jacob, alors, se levant au matin, prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, la dressa en estelle, versa l'huile par-dessus et donna à ce lieu le nom de Bethel. Et il dressa la pierre en estelle en lui donnant la forme d'un livre de vie et l'odeur puissante de la Jérusalem céleste. Car de même que le Christ est la tête de ses membres dans la Jérusalem d'en haut, de même chaque autel consacré est la partie la plus précieuse de l'Église où il se trouve. Et il appela ce lieu sanctifié maison et temple de Dieu, en reprenant le nom de la Jérusalem céleste, qui est le temple vivant de Dieu vivante. Ce bref récit fait allusion à la construction du temple à partir d'une pierre, mais en lui donnant la forme d'un livre et l'odeur puissante de la Jérusalem céleste. C'est la première fois que la Jérusalem céleste est nommée dans cette troisième partie du Chivias. Observons les mutations de l'objet, pierre, livre de vie, odeur, et comment tout cela trouve un parallélisme selon lequel le corps du Christ et cette même construction céleste. Les métamorphoses d'objets indiquent la nécessité du monde des formes pour visualiser, mais ces caractères mutants jouent aussi sur la valeur des significations invisibles qui est le véritable objet symbolique. Ce micro-récit est central dans cette vision de la ville céleste de la troisième partie du Chivias, car je pense qu'on peut l'interpréter un miroir de toute l'œuvre bâtie et à bâtir qui s'égrène vision après vision. Dans la sixième vision, les murs de l'Alliance, l'élément architectural est également peuplé de figures. Et après cela, je vis entre l'angle septentrional et l'angle occidental les murs de clôture du dit édifice constitués dans sa partie antérieure des niches voûtées ressemblant à des colonnades. Il n'était toutefois pas évidé comme les colonnades, mais plein. Et il avait dans chaque niche une sorte de portrait d'homme. Une série de personnages dont les vêtements et les couleurs sont décrits avec beaucoup de précision sont comparés les unes aux autres en repérant les éléments communs et les éléments dissemblables. Ils ont tous des attributs personnels et des significations qui découlent les mots proférés. La miniature ne peut rendre compte de l'extrême animation de la vision. Seul le cinéma pourrait le faire. La septième vision est dédiée à la colonne de la Trinité. Ensuite, j'ai vu, dans l'angle occidental de l'édifice qui m'était montré, une colonne admirable, à part et très solide, d'une couleur pourpre, presque noire, et placée dans l'angle de telle manière qu'on la voyait à la fois du dedans et du dehors de l'édifice. Elle était de si grande dimension que mon esprit ne pouvait distinguer ni sa hauteur ni sa grosseur, mais elle était étonnamment lisse, sans aucune rugosité. La colonne à trois arêtes qui font allusion à la Trinité. Dans l'œuvre de Hildegard, l'iconographie trinitaire emprunte des images traditionnelles, en suivant par exemple le type Gnadenstuhl, Dieu le Père accueillant en son sein le Christ crucifié avec une colombe sur la tête. Mais elle offre aussi des images insolites comme celle-ci, car s'il est vrai que la colonne symbolise le Christ, en revanche, on n'y trouve pas d'exemple de colonne symbolisant la Trinité dans la tradition iconographique. En suivant fidèlement le texte, le miniaturiste a créé une nouvelle image, comme cela arrive souvent dans l'œuvre de la visionnaire. Les paroles prononcées par la voix céleste ont leur importance. Ces dons mystiques, admirables et tout à fait inconnus qui t'apparaissent à toi, ô créature humaine, des façons très claires dans la vraie lumière, je te les présente et je te confie la tâche de les dire et de les montrer pour enflammer le cœur de feu des fidèles qui sont les pierres très pures pour l'édifice de la Jérusalem céleste. C'est la deuxième mention de la Jérusalem céleste et nous y trouvons sa description par Hildegard, non pas en tant que ville qui descend du ciel telle que Jean la voyait, la ville complète de la fin du temps, placée dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, mais en tant que ville qui s'agrandit et se construit dans le temps. L'une des expressions les plus utilisées par Hildegard pour terminer ses lettres fait allusion à cette question. Elle dit souvent « Réjouis-toi maintenant du salut de ton âme et tu seras pierre vivante dans la Jérusalem céleste. » La Jérusalem céleste est une ville en chantier que l'on bâtit avec des pierres qui sont les vertus, les bonnes œuvres des fidèles. La référence se trouve dans le premier épître de Saint-Pierre 2:4. Je cite « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu, vous aussi, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel. » La construction de la ville constitue pour Hildegard une métaphore efficace pour comprendre les vérités intérieures qui sont associées au comportement éthique et moral. La huitième vision nous montre justement l'acte de construction. Et ensuite, sur la face méridionale du mur de pierre de l'édifice présenté, au-delà de la colonne de la vraie Trinité, j'ai vu encore une sorte de colonne grande et couverte d'ombre visible à l'intérieur et à l'extérieur de ces mêmes édifices. Plus loin, au lieu de la vision de lumière, cette colonne ou couverte d'ombre s'est trouvée dans cet édifice à l'endroit où j'avais vu auparavant, dans des célestes mystères en présence de Dieu, l'éclat immense et quadrangulaire d'une lumière resplendissante. Celle-ci, représentant les secrets du Créateur Tanon, m'a été présentée en grand secret. En elle resplendissait une autre lumière semblable à une aurore, ayant en elle, dans sa profondeur, la clarté aérienne d'une lumière de pourpre. C'est par elle qu'elle m'avait été montrée, dans une présentation mystique, les mystères du Fils de Dieu incarné. On nous montre ensuite l'activité des constructions réalisées par les sept vertus, les dons de l'esprit dans l'exégèse, qui montent et descendent de l'échelle avec des pierres. Je cite. Sur cette colonne, depuis le bas jusqu'au sommet, il y avait une montée par une sorte d'échelle où je voyais toutes les vertus de Dieu descendre et monter, chargées des pierres pour leur ouvrage, manifestant d'une vive ardeur pour achever cet ouvrage. La neuvième vision correspond à la tour de l'Église. La critique hildegardienne, il a reconnu l'influence manifeste du pasteur Hermas. On remarque notamment son caractère inachevé. Après cela, je vis, au-delà de la dite colonne de l'humanité du Sauveur, une tour d'un éclat resplendissante placé sur les murs de pierre de la partie sud de cet édifice et tel qu'on pouvait la voir depuis l'intérieur et depuis l'extérieur de la construction. Elle était pour la partie intérieure d'une largeur de 100 coudées et d'une hauteur telle que je ne pouvais la distinguer. Entre cette tour et la colonne de l'humanité du Sauveur, il y avait simplement une fondation sur laquelle n'avait encore été édifié aucun mur, mais elle était interrompue et donnait l'impression d'une place libre. Finalement, la 10e vision est réservée au Fils de l'homme. Et après cela, au sommet de l'angle oriental de l'édifice ainsi présenté, là où se rejoignent les deux parties soudites de ce mur, celle de la lumière et celle de pierre, j'ai vu sept décrets d'une pierre très blanche qui semblait s'élever en dégradé comme une carapace de tortue vers la grande pierre sur laquelle apparaissait celui qui était assis tout brillant sur son trône. C'est là que se termine la vision de la ville céleste dans le Chivias, sa description et certains aspects de son exégèse. Dans le Liber Divinorum Operum, on retrouve la ville dans la troisième partie. Dans ce cas, Hildegard ne la décrit pas, mais renvoie à son ouvrage précédent, le Chivias. On y trouve simplement une brève allusion dans la première vision. Vous avez le texte en latin ici. Je lis la traduction en français. Et j'ai vu de nouveau comme un instrument carré qui ressemblait à une grande ville. Quasi cuiusdam magne civitatis instrumentum quadratum. Entouré de toutes parts comme par un mur, avec une grande splendeur et des ténèbres, il était orné de montagnes et de personnages. J'ai vu au milieu de la région orientale comme une grande et haute montagne, faite d'une pierre dure et blanche, semblable à celle qui crache le feu. Sur cette montagne, on aurait dit qu'un miroir resplendissant, avec une si grande clarté et pureté qu'il semblait dépasser le soleil en splendeur. Au-dessus, il y avait une colombe aux ailes déployées comme pour prendre son envol. Ces miroirs, qui contenaient beaucoup de miracles occultes, émettaient une splendeur d'écran à latitude et altitude dans laquelle apparaissaient de nombreux mystères et des personnages. Dans l'exégèse, l'instrument carré qui ressemble à une grande ville signifie la stabilité et la fermeté de la prédestination divine. Tu vois comme un instrument carré qui ressemble à une grande ville qui signifie l'œuvre stable et ferme de la prédestination divine, entourée de toutes parts, comme par un mur, avec une grande splendeur et des ténèbres, parce qu'aux fidèles revient la gloire et aux infidèles le châtiment, divisé par les justes jugements, et orné des monts et des personnages, ceux-là même fortifiés et dressés par les grands prodiges, des miracles et des vertus. Dans l'épilogue du Liber Divinorum, nous trouvons mention de la Jérusalem céleste. Hildegard dit, « Et pauvre de moi, instruite dans cette même vision, je disais, « Mon Seigneur, donne à tous ceux qui m'ont aidé en me consolant, moi qui ai travaillé dans la crainte de ces visions que tu graves en moi depuis l'enfance, la récompense de la clarté éternelle dans les Jérusalem céleste pour qu'ils se réjouissent infiniment en toi. » Bien que la ville céleste n'apparaisse dans le Liber que de cette manière implicite, il ne fait aucun doute qu'elle est le véritable sujet de cette troisième partie, ce qu'a compris fort bien l'enlumineur du manuscrit de Luca en introduisant les carrés dans toutes les miniatures qui l'illustrent. Le caractère diagrammatique du Liber Divinorum Operum est encore plus accusé que dans les Chivias, car on trouve ici une succession des cercles et des carrés. Les cercles dominent la deuxième, troisième et quatrième vision et font place aux carrés dans les suivantes. Les carrés et les cercles sont ensuite réunis dans la dernière vision, la plus prophétique de toutes, d'après Peter Drucker. En ce qui concerne plus particulièrement la question qui nous intéresse ici, la ville céleste, Hildegard projette par l'emploi des motifs eschatologiques les dernières étapes de la construction de la ville humaine divine et voit dans ces étapes de nombreuses ascensions et descentes, tantôt en avançant, tantôt en reculant, mais sa dernière conviction est optimiste. La ville sera réalisée. Examinons de plus près cette 10e et dernière vision du Liber. La roue cosmique est dominée par la figure verte de la Caritas Sapientia, qui remplit toute la partie gauche, tandis que l'autre moitié, à droite, est occupée par les carrés, symbole de la ville. La montagne sert d'union entre la roue et les carrés. Si les cercles symbolisent la divinité, les carrés se réfèrent à la terre, mais la couleur dorée lui confère un caractère sacré. Comme l'affirma Ingrid Riedel, en correspondance avec les cercles de la théophanie de Sophie, se trouve la quadrature de la ville. La ville est en effet l'œuvre que les hommes doivent édifier, mais ce n'est pas une œuvre terrestre. C'est plutôt, comme nous avons pu le constater à la lecture des descriptions, une œuvre de lumière, c'est-à-dire une œuvre céleste. Dans les Chivias, j'ai pu repérer un passage dans la 4e vision de la première partie intitulée « L'homme dans son tabernacle » auquel nous pourrions appliquer l'expression d'Henri Corbin de « dramaturgie de l'âme ». C'est un récit de l'exil de l'Occident, l'une des rares passages où la voix de l'être est remplacée par la voix de l'âme qui se lamente en racontant une histoire que la miniature reproduit à droite selon un schéma de composition narrative en 5 registres qui se succèdent sur une ligne ascendante de bas en haut, opposée à la partie gauche de la miniature où l'éclat de lumière et son halo marquent un rythme décroissant. L'histoire racontée par l'âme s'étale sur 8 chapitres et suit un mouvement ascendant à la recherche de la lumière que l'opacité du corps empêche de voir. C'est le retour au foyer de l'âme exilée d'un monde qui lui est étranger. Passé les premières aventures qui occupent les 4 premiers registres et traitent de la manière dont l'âme surmonte des obstacles infranchissables, nous arrivons au 5e registre où l'âme prend la forme d'un ange aux ailes déployées à côté du tabernacle que l'artiste a représenté avec l'or et du rouge. C'est l'âme. L'âme arrive au tabernacle et y réalisera les œuvres de lumière, alors qu'auparavant, celles-ci étaient faites de ténèbres. La libération de la lumière est conçue comme la construction du temple. À chaque point cardinal du tabernacle correspond un élément architectural et un rituel liturgique. Dans cette même demeure, en direction nord, j'ai placé une colonne de fer poli à laquelle j'ai suspendu les plumes de mes ailes qui se balancèrent d'un côté et de l'autre. Puis, trouvant là de la manne, je l'ai mangée. En direction de l'Orient, j'ai dressé un rempart de pierres taillées. J'ai allumé du feu et bu du vin mêlé de myrrhe et du miel. En direction du midi, j'ai fait une tour de pierres taillées dans lesquelles j'ai suspendu des bouclières de couleur rouge et aux fenêtres de laquelle j'ai placé des trompettes d'ivoire. Au milieu de cette même tour, j'ai répandu du miel et j'en fis un précieux onguent à l'aide des autres aromates, si bien que depuis là, une puissante odeur se répandait dans la demeure. Du côté de l'Occident, je n'ai placé aucun ouvrage parce que cette partie était tournée vers les siècles. La passion de Hildegard pour l'image de la Jérusalem céleste est également manifeste dans son œuvre poétique et musicale, Symphonia, où affleurent des éléments caractéristiques de la description de la ville dans l'Apocalypse 20. Mais dans ce cas aussi, de même que dans son œuvre prophétique, la Jérusalem de Hildegard est une ville en construction. Pour Barbara Newman, il y a 3 éléments constants dans Symphonia: l'arbre, l'édifice et la montagne, et ces emblèmes apparaissent dans de multiples permutations. L'arbre et l'édifice sont des métonymies pour les 2 images d'une suprême réalisation, les jardins au commencement de temps et la ville à la fin. Expulsée du jardin, la race humaine chemine lentement et de manière tortueuse vers la ville par les chemins de la montagne. La construction de la ville est un effort partagé, image de la constante interaction de la grâce divine et de la lutte de l'humanité. Dans « Opresulvere Civitatis », dédiée à Saint Dicibote, on retrouve la paradoxe architectural très fréquent chez Hildegard, selon lequel l'édifice est en même temps le bâtisseur. À la quatrième strophe, il est dit « Tu es une immense tour devant l'autel de très haut, et tu imbues les sommets de cette tour, de la fumée et de tes parfums. » Dicibote est le prêtre qui offre devant l'autel devant la fumée des parfums qui noircit la cime de la tour, et il est lui-même la tour. Ô Jérusalem semble avoir été composé pour la consécration de la nouvelle église monastique de Rupertsberg, consacrée le 1er mai 1152. C'est la pièce la plus longue et la plus élaborée de Symphonia. Les strophes C et 8 font écho à l'hymne Urbs Beata Jerusalem. La séquence de Hildegard commémore non seulement Rupert, mais toute la communauté des saints, les pierres vivantes de la Jérusalem céleste. Bien qu'il n'y a pas de citation littérale, la description de Jérusalem renferme d'évidentes résonances apocalyptiques. Ô Jérusalem, aurea civitas, ornata regis purpura, fenestre tue Jérusalem, cum topazio et zaffiro specialiter sunt decorate. Et de nouveau la Jérusalem, tel encore vivant, apparaît dans ses vers. Ô Jérusalem, fundamentum tuum, positum est cum torrentibus lapidibus, quates cum publicanis et peccatoribus qui perdite oves erant, sed per ofilium invente a te concurrerunt et in te positi sunt. Je terminerai cette description de la ville céleste dans l'œuvre de Hildegard par la lettre écrite en destinataire inconnu, datée de 1173-1179, c'est-à-dire dans les dernières années de sa vie, qui est justement un commentaire de la vision de Jean de Patmos de la Jérusalem céleste. Le premier paragraphe de la lettre se termine par « C'est Jean qui a dit dans une vision mystique « et j'ai vu la ville sainte », etc. » La citation de l'Apocalypse 21:2 revêt une importance particulière à la lumière de la troisième partie du Chivias. La relation spéculaire que Hildegard établit avec Jean devient évidente ici. L'événement extraordinaire qui consiste à voir la ville sainte est suivi de l'exégèse. Comment comprendre ces vers, se demande-t-elle, qui se penche sur les aspects suivants. En premier lieu, sa compréhension historique, car son apparition doit être comprise, d'après la pensée figurale si bien étudiée par Erich Auerbach, à partir de laquelle le Nouveau Testament est déjà en germe dans l'Ancien, par rapport au fiat de la Genèse, par laquelle Dieu donna vie à toutes les créatures et forma l'homme avec la poussière de terre. La création de l'univers trouve ainsi sa répétition dans l'apparition du nouveau ciel et de la nouvelle terre qui prend la forme de la ville sainte. C'est après la disparition du premier ciel et la première terre que la vision s'est produite. Et j'ai vu descendre du ciel, d'après Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Le deuxième aspect qu'elle tient à commenter est la comparaison entre la nouvelle Jérusalem et l'épouse parée du livre de l'Apocalypse. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dans l'exégèse de Hildegard, l'époux est le Fils de Dieu. Jérusalem, qui serait l'épouse, est faite du sang versé par le Fils. Au milieu d'une profonde obscurité, les cieux sont éclairés par le sang rouge du Fils et les portes du paradis qui s'étaient refermées après l'expulsion d'Adam s'ouvrent à présent. Jérusalem, construite avec les bonnes œuvres de l'humanité, est faite pour louer l'humanité de Dieu, de la même manière que Dieu créa les anges en l'honneur de sa divinité. Dans cette ville, dit Hildegard, Jésus-Christ est la pierre angulaire dans laquelle s'unissent les murs dans le temple de la Jérusalem céleste. Si la référence à Éphèse 2:20 est évidente, je cite, « Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gène de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Effectivement, si cette référence est évidente, la vision de la ville céleste de Hildegard ne semble pas moins présente dans cette exégèse. Sa propre expérience, et non pas seulement la compréhension exégétique, est ce qui lui permet d'affirmer que tout ce que Jean a vu et entendu dans la, divine révélation est vrai. Et elle termine sa lettre en exhortant les destinataires, par des désirs saints et des bonnes œuvres, à construire les tabernacles dans la Jérusalem céleste et affamés de l'amour de Dieu et à la parer de belles fenêtres. Les manuscrits de Wiesbaden ou de Lucca, dans lesquels se trouvent les Scibias et les Liber Divinorum Operum de Hildegard, ont été compris comme des ouvrages essentiellement destinés à témoigner de ses dons de visionnaire pour justifier sa sanctification. Ces visions et ces images possédaient la fonction cognitive que leur accordaient généralement les monachismes du XIIe siècle et les néoplatonicismes dominants dans la philosophie de l'époque, notamment celle de Victorine. En ce sens, la vision de la ville céleste de Hildegard est une image habituelle à son époque. C'est un symbole architectural tiré des Écritures, comme l'Arche de Noé, les temples d'Ézéchiel, le tabernacle, le temple de Salomon, la tour de Babel, la maison de la sagesse ou la Jérusalem céleste, que les religieux employaient fréquemment comme instrument, non seulement exégétique, mais aussi comme objet des recueillements et des prières, comme une ekphrasis destinée à l'intériorisation nécessaire à la vie de l'esprit. Anne Schmeicher, dans son livre sur la Divina Quaternitas, publié à Amsterdam 1978, considérait dans le deuxième schéma visuel exégétique cette quaternité cosmico-architecturale qui pouvait remonter à la tradition de l'Antiquité d'une construction cosmique ou d'une ville cosmique à partir d'un carré, d'un rectangle ou d'un plan circulaire divisé en quatre par une figure orthogonale ou une diagonale. Schmeicher attire l'attention sur l'hésitation entre les cercles et les carrés. Les exégètes employèrent fréquemment ces symboles architecturaux et en firent les points de départ de leur interprétation. La ville de Jérusalem constitua le thème le plus répandu car elle s'est prêtée au développement des quatre sens d'écriture, historique, allégorique, tropologique et anagogique. Des origines, Jérusalem fut la Civitas Dei et Ecclesia, dont le Christ était l'architecte. Elle fut également comprise comme ce qui s'est construit dans le cœur de chaque croyant, une interprétation très répandue avec les premiers christianismes sous l'influence de Civitas Dei de Saint-Augustin. La Jérusalem céleste, en tant qu'objet de vision, Visio Beatae Urbis Jerusalem, correspondait à son intégration dans les églises, où, comme l'étudia Schmeicher, les schémas de l'œil étaient guidés par des programmes visant principalement à élever l'âme. La direction n'est pas toujours verticale, puisqu'elle pouvait être horizontale dans des espaces qui se succédaient les uns aux autres. Par exemple, dans l'église de Saint-Pierre-du-Mont, dans la baie bénédictine de Civate, qui renferme des peintures attribuées à l'école lombarde de la fin du XIe siècle, on peut suivre les motifs extraits de l'Apocalypse dans l'ordre chronologique, en déplaçant les regards vers l'Orient, depuis les ciboires jusqu'au maître-autel. De ce fait, la vision des manifestations du ciel était graduelle et culminée par la vision de la ville céleste. Les quaternités des anges et des rivières trompettes, etc., sont une introduction à la vision de la ville céleste sous la voûte devant la porte. La peinture crée l'illusion de la lumière pour suivre dans ses aspects iconographiques l'Apocalypse 21, la forme carrée de la ville, les 12 portes et les 12 figures. Toutes les portes sont tournées vers l'intérieur et portent l'inscription des noms de pierres précieuses. La rivière coule du tronc vers l'extérieur de la ville. Aux quatre coins, on lit les noms des quatre vertus cardinales, Justitia, Fortitudo, Temperantia, Prudentia. Le résultat, conclut Schmeicher, est une exégèse visuelle complète de l'interprétation multiple de Jérusalem. Historique, la ville cosmique avec sa division quadripartite. Allégorique, l'ecclésia formée par le Christ et les pierres vivantes employées à sa construction. Tropologique, les quatre vertus qui sont les pierres angulaires de la Jérusalem de l'âme humaine. Et anagogique, la Beata Visio Pacis. Pour sa part, dans The Craft of Thought, publié en 1998, Mary Carruthers aborde les caractères ekphrastiques de la Jérusalem céleste. Elle cite le moine Arnobius du milieu du 5e siècle, qui, dans un commentaire du psaume 98, invitait l'auditoire à contempler la venue du Seigneur et à peindre sous ses yeux la Jérusalem céleste. Pinge, pinge ante oculus tuos, que aec cantas, aliquas fabricas, pinge templa, pinge termas. Elle conclut qu'Arnobius considérait la description de la ville céleste par Jean comme un exemple d'ekphrasis énormément répandu en association avec la citadelle de la montagne d'Ézéchiel dans la peinture contemplative de son esprit et de sa mémoire, et qu'il invitait son auditoire à fabriquer dans leurs esprits la description textuelle en incluant des éléments qui ne se trouvaient ni chez Jean ni chez Ézéchiel. Néanmoins, Mary Carruthers n'aborde pas seulement l'ekphrasis en tant que visualisation d'un texte, mais elle parle aussi de son emploi dans la peinture, ekphrasis in paint. Elle considère, par exemple, que la ville céleste du Beatus Facundus est un dispositif qui engage socialement un dialogue méditatif à travers les couleurs et les formes de toutes ces images. Des descriptions textuelles à visualiser antérieurement ou à peindre effectivement dans les manuscrits. Des images plastiques à contempler et à intérioriser. Des visions décrites et peintes également. Mémorisation, visualisation, méditation, prière. Telles sont les fonctions des images et des textes combinés de différentes manières. L'exemple de Hugues de Saint-Victor, que Patrice Sicard étudia avec beaucoup de précision dans un livre publié en 1993, est exemplaire à cet égard si l'on veut comprendre la valeur des images dans le monde monastique du XIIe siècle. Dans les prologues à De Arca, la communauté monastique est décrite assise dans les cloîtres ou dans les chapitres, où les moines se réunissaient pour échanger leurs points de vue et interroger les maîtres. C'est dans ces collationes ou conférences spirituelles devant un auditoire silencieux qui naquirent les traités sur l'Arche de Noé en tant que symbole architectural. Les maîtres en exégèse qui étaient Hugues ne faisaient pas que parler et les représentations figurées jouaient également un rôle essentiel. Huius vero spiritualis edificio exemplar tibidabo arcam Noe, quam foris videba oculus tuos, ut ad eius similitudinem intus fabricetur animus tuus. Pour Sicard, de Arca de 1126, et l'exposé discursif de ce que les libellus, daté 1129, apportent en tant que forme figurée, et il suppose l'existence d'un grand dessin, probablement sur le sol du cloître plutôt que sur un parchemin, qui aurait été réalisé pendant l'exposé oral, dans une simultanéité de la parole et de l'action. Il n'est pas possible de penser dans ce contexte à la création d'une image substituant un texte et destiné à un public d'illettrés. En revanche, on peut penser à la supériorité de l'image face au texte en raison de sa plus grande proximité par rapport à l'archétype selon la théorie platonicienne. Quelques années plus tard, dans son commentaire sur la vision du temple d'Ézéchiel, Richard de Saint-Victor en reconstitua l'apparence, ce que le pape Grégoire le Grand, pour sa part, estimait impossible à réaliser dans la mesure où Ézéchiel n'essayait pas de projeter une image des structures cohérentes et tangibles, mais se référait à un édifice spirituel et non pas matériel, quasi edificium. Ainsi, dans le Codex de Saint-Victor, daté de l'an 1170, on repère 13 enluminures, celle-ci c'est seulement un, qui furent reproduites dans 10 manuscrits, et si Richard ne les dessina pas lui-même, on est à peu près sûr qu'il en supervisa l'exécution. Les exemples cités peuvent être comparés à la ville céleste de Hildegard. Si, contrairement à l'exemple de Hugues de Saint-Victor dans l'œuvre de Hildegard, nous ne trouvons pas d'indication suffisante sur la manière dont les images devaient être utilisées, je ne considère pas saugrenu de les situer dans les mêmes contextes qui conduisit à introduire des images à la Jérusalem céleste dans les églises ou dans celui des Victorines pour qui la fonction de l'image prévalait sur la parole. L'intériorisation des images comme un exercice de l'âme, la méditation pour la construction du temple intérieur, semblent être les fondements de l'exposition de ces visions et de leur réunion dans les manuscrits, de leur illustration et de leur diffusion. La description de la vision de la ville dans les Chivias constitue, à mon avis, une actualisation de la vision de la Jérusalem céleste par Jean de Patmos, et son objectif était très probablement que la communauté monastique la peignit à l'intérieur, en écoutant les paroles et en observant les miniatures. Stimuler la contemplation de la ville céleste, celle de chacun, celle qui naît à l'intérieur de chacun des auditeurs, et percer en même temps l'essence de la construction de l'œuvre collective qui est la Jérusalem céleste, furent probablement la fonction de la troisième partie du Chivias. Pour terminer cette conférence, j'aimerais vous soumettre une brève réflexion sur la vision de la ville céleste du point de vue de notre monde. Dans mes études sur Hildegard von Bingen, j'ai essayé de comprendre son expérience visionnaire en la comparant au processus créatif d'artistes du XXe siècle, notamment de ceux dont la peinture a pu surgir d'une passivité et d'une attente à l'éclosion des images. De cette manière, la vision au Moyen-Âge, habituellement interprétée par la critique de notre monde comme une stratégie destinée à faire place à l'expression allégorique, pouvait acquérir, à mon avis, une authenticité inusitée. En effet, des artistes comme par exemple Max Ernst, René Magritte ou Joan Miró diluaient l'altérité de cette expérience en offrant de nouvelles possibilités de compréhension. La récente publication du livre rouge de Carl Gustav Jung apporte, à mon avis, de nouveaux éléments de confrontation avec l'expérience mystique et visionnaire au Moyen-Âge. Alerté par une hallucination au cours de l'automne 1913, le psychiatre suisse se prépara à réaliser la même année ce qu'il appela la rencontre avec l'inconscient. Il lui sembla que le moment le plus propice à cette confrontation était la nuit, lors de l'introversion de la libido. Ces penseurs de la nuit, comme l'appela Yves Bonnefoy, de même que William Blake, Kafka et bien d'autres, réalisa une expérience qui durera plus d'une décennie et constituera le cœur de toute sa recherche théorique ultérieure. Les fantaisies, comme il les appelait, c'est-à-dire les images soudainement jaillies dans sa psyché, qu'il développait progressivement sous forme d'histoires illustrées dans lesquelles il était supposé se retrouver, et qui renfermait des dialogues, des visions, mais également des songes, furent transcrites rigoureusement dans des carnets noirs avant d'être transposées dans un livre de grand format, les livres rouges, où par ailleurs elles seront illustrées. La méthode de l'imagination active, ainsi qu'il la baptisa par la suite dans ses pratiques thérapeutiques, constitue les fondements de l'élaboration de ces livres. Seules quelques allusions dans ses mémoires autobiographiques recueillies par sa disciple Aniela Jaffé, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, témoignent l'existence de ces livres rouges, ou Liber Novus, comme Jung l'intitula aussi, dans la mesure où tout regard introspectif est nécessairement un regard neuf. Ce livre fut écrit à la manière d'un manuscrit médiéval et il demeura dans la plus stricte intimité jusqu'à 2009, c'est-à-dire il y a à peine 2 ans, date de sa publication en facsimilé par les éditions Norton de New York. Seules 2 illustrations du livre rouge m'intéressent à présent. Elles se trouvent dans la deuxième partie, pages 105 et 163. Elles appartiennent à la série des mandalas qui occupent une place privilégiée dans cette partie du livre et n'ont pas de rapport explicite avec les textes. L'image de la page 105 fut introduite par Jung dans les commentaires sur les mystères de la fleur d'or de 1929. Il a décrit de la manière suivante. Au milieu brille la lumière blanche dans le firmament. Dans les premiers cercles, des grains de vie protoplasmiques. Dans les secondes, des principes cosmiques qui tournent et contiennent les 4 couleurs fondamentales. Dans les troisième et quatrième, des forces créatrices qui agissent vers l'intérieur et vers l'extérieur. Aux points cardinaux, les âmes masculines et féminines, redivisées à leur tour en âmes brillantes et âmes obscures. En 1952, il reproduisit une fois de plus cette image sur le symbolisme du mandala et commenta. Les tableaux sont l'œuvre d'un homme d'âge moyen. Au centre, il y a une étoile. Dans le ciel bleu, quelques nuages dorés. Aux 4 points cardinaux, on voit des personnages. En haut, un vieil homme en attitude contemplative. Et en bas, Loki ou Héphaïstos, aux cheveux rouges, flamboyants, tenant un temple dans la main. À droite et à gauche, debout, 2 femmes, l'une sombre et l'autre de couleur claire. Ces éléments représentent 4 aspects de la personnalité ou 4 figures archétypiques qui appartiennent, pour ainsi dire, à la périphérie de soi-même. L'image suivante, celle de la page 163, contient en bas de page le petit texte, ici en bas, on voit un petit texte de Jung qui dit « 1928, lorsque je fis ce dessin du château doré bien fortifié, Richard Wilhelm m'envoya de Francfort les textes millénaires chinois du château Jean, l'embryon du corps immortel. Dans les commentaires sur les mystères de la fleur d'or, l'image est décrite ainsi. Un mandala comme une ville fortifiée, avec un mur et un fossé. À l'intérieur, un grand fossé entouré d'un mur fortifié comprenant 16 tours et un autre fossé intérieur qui les longe. Ces fossés ceinturent un château central et à la toiture en or dont le centre est un temple en or. Il reprit la même image en 1952 sur le symbolisme du mandala et commenta. Représentation d'une cité médiévale, avec ses remparts et ses fossés, ses rues et ses églises, les tout ordonnés dans 4 rayons. La ville intérieure est de même entourée des remparts et des fossés, comme la ville impériale de Pékin. Tous les édifices s'ouvrent sur le centre, qui est représenté par un palais à la toiture dorée. Il est lui aussi entouré d'un fossé, et il poursuit ainsi, un tableau semblable n'est pas étranger au symbolisme chrétien. Dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste est connue de tout, de tous. Les mondes de Simach, des Landes, connaît aussi la ville de Brahma, dans les Mérous, la montagne du monde. Dans ma vie, souvenirs, rêves et pensées, Jung se réfère à ces deux images. Je cite ce texte. J'ai eu confirmation de la pensée sur les centres et les soies quelques années plus tard, 1927, à travers un rêve. J'ai présenté son essence sous la forme d'un mandala en le définissant comme une fenêtre sur l'éternité. Le dessin est reproduit dans les mystères de la fleur d'or. Un an plus tard, j'ai fait un autre dessin, un mandala au centre duquel il y avait un château doré. Lorsque j'ai terminé, je me demandais pourquoi lui ai-je donné cette allure chinoise. Par une étrange coïncidence, j'ai reçu peu de temps après une lettre de Richard Wilhelm. Il m'envoyait les manuscrits d'un traité taoïste alchimique chinois intitulé Das Geheimnis der Goldenen Blüte et me priait de les commenter. J'ai lu rapidement le texte car il apportait une confirmation inattendue de mes idées sur les mandalas et les mouvements circulaires autour du centre. Les rêves que j'avais faits en 1927 et dont j'ai déjà parlé représentaient lui aussi un mandala. Le rêve. Je me trouvais dans une ville sale, noire de suie. Il pleuvait et tout était sombre. C'était l'hiver et il faisait nuit. Les quartiers de la ville disposés radialement convergeaient sur une place au centre de laquelle il y avait un étang circulaire et au milieu une petite île. Alors que tout se trouvait sous la pluie, dans les brouillards et la fumée par une nuit faiblement éclairée, l'îlot resplendissait dans la lumière du soleil. Un seul arbre y poussait, un magnolia couvert de fleurs rouges. C'était comme si l'arbre se fût tenu dans la lumière du soleil et comme s'il eût été en même temps lumière lui-même. Le rêve de Jung, qui donna lieu à ces images et qu'il associa lui-même à l'archétype de la Jérusalem céleste, fut interprété comme la représentation de sa situation à cette époque, comme une image terminée dont on distinguait clairement les centres sièges de la vie. Le langage psychologique, avec l'individualisme et la subjectivité qui les caractérisent, remplace ici le langage métaphysique de Hildegard von Bingen. Comme Jung l'a dit lui-même dans son commentaire sur le mystère de la fleur d'or, le texte est incompréhensible du point de vue métaphysique, mais pas du point de vue psychologique. Néanmoins, cette traduction n'implique pas d'oublier les symboles originels, mais accorde au contraire un nouveau souffle de vie à ceux qui pourraient bien appartenir à un passé irrémédiablement mort. Merci bien. Maintenant,